19h15 à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Dialogue entre Congolais, c'est avec vous, Alain Erung, bonsoir.
Bonsoir Rémi Cesar Tchamala, bonsoir à tous. Un seul sujet dans l'émission de ce soir. Motion d'information initiée jeudi dernier par le député national Jean-Lucien Boussa sur la gestion financière reprochée au Premier ministre Adolphe Mouzito dans une lettre de la présidente de la République. Sachez que dans sa lettre du 3 juin 2009, dont certains extraits ont été repris dans le quotidien qui montre le potentiel du 6 juin 2009, le Premier ministre a répondu au chef de l'État. Quelle analyse faire de cette lettre et quelles peuvent être les conséquences de la démarche de la présidence à l'endroit du Premier ministre? Pour en parler, nous recevons comme invité Jean-Lucien Boussa, député national MLC, vice-président de la Commission économique financière de l'Assemblée nationale et initiateur de la motion d'information, Zénon Moukouakani, député national et président du groupe parlementaire Palou à l'Assemblée nationale, le Palou c'est aussi le parti du Premier ministre Adolphe Mouzito, Ambroise Kamukuni, constitutionnaliste et professeur de droit public dans plusieurs universités de la RDC. À tous, bienvenue dans cette émission et bonsoir encore.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Une motion d'information initiée à l'Assemblée nationale par vous, Jean-Lucien Boussa, sur la mauvaise gestion financière reprochée au Premier ministre Adolphe Mouzito par la présidence de la République, risque de déboucher sur une motion de censure. Vous l'avez annoncé le jeudi 4 juin dernier et vous comptez ainsi demandez au chef du gouvernement de s'expliquer sur la situation économique et sociale du pays que vous jugez déplorable. Pour les députés de l'ANP, cette motion est légale, mais qu'elle ne soit pas une ingérence dans les affaires entre la présidence et le gouvernement. Les détails dans cet élément de Marie-Chantal Lumba.
Cette motion fait suite à la lettre de la présidence de la République adressée au Premier ministre. Elle stipule que tout ordonnancement des dépenses publiques devrait requérir avant paiement l'autorisation du chef de l'État. Le directeur de cabinet du président de la République, signataire de la lettre, indique que l'instruction est dictée dans le souci d'endiguer les dérapages substantiels et répétés des finances publiques et de la monnaie nationale. Selon Jean-Lucien Boussa, ce document est une preuve que le Premier ministre Adolphe Mouzito a perdu la confiance du chef de l'État et qu'il devrait démissionner.
La présidence de la République vient de nous rejoindre par rapport à cette observation en rapport avec la mégestion des finances publiques que le président de la République voudrait désormais lui-même suivre la gestion des finances publiques et du Premier ministre, en toute responsabilité, devrait prendre des mesures qui imposent une telle rupture de confiance et une telle mégestion des finances publiques, démissionner.
Du côté de la majorité, cette affaire concerne a priori la présidence et le gouvernement. Robin Minako explique.
L'Assemblée nationale, quant à elle, peut continuer à légiférer et à contrôler ce gouvernement. C'est pourquoi, personnellement, j'ai appuyé la conclusion du président de l'Assemblée nationale et a rappelé toutes ses prérogatives. J'estime qu'il n'y a rien à dramatiser dans cette affaire.
Pour l'instant, les députés de l'opposition comptent amorcer la procédure administrative pour une motion de censure.
Dans sa lettre du 3 juin 2009, dont certains extraits ont été repris dans le quotidien Le Potentiel du 6 juin 2009, le Premier ministre a répondu au chef de l'État. Il estime néanmoins, je cite, qu'il s'agit des mesures exceptionnelles qui visent à régler une situation exceptionnelle, temporaire et matérialise en ces temps particulièrement difficiles pour le trésor public le consensus résultant de nos échanges antérieurs sur la question. Il poursuit en soutenant que ces mesures confirment notre détermination commune de minimiser les pratiques qui, par leur extension grandissante, nuisent à la gestion orthodoxe des finances publiques et à la stabilité de la monnaie. Jean-Lucien Boussa, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national MLC et vice-président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale et initiateur de la motion d'information. Vous vous retrouvez là, hein? Est-ce que vous confirmez que cette lettre du président de la République est un désaveu au Premier ministre?
Mais d'abord, la lettre du président de la République, écrite par son directeur de cabinet, est révélatrice de malaise profond, notamment dans la collaboration entre le président de la République et le Premier ministre, en ce que cette lettre permet de démontrer qu'il y a, à travers les écrits et les mesures prises par le président de la République, ce que j'ai appelé un désaveu du Premier ministre par le président de la République, d'une part, mais d'autre part, agissant ainsi, le président de la République passait à côté des textes qui nous régissent, notamment notre constitution qui consacre le principe de séparation de pouvoir entre le gouvernement et l'institution président de la République, mais aussi la disposition de l'article 91 de la constitution, en son alinéa 2 qui définit les domaines de collaboration entre le président de la République et le plus attendu, que le Premier ministre est responsable du gouvernement, il est responsable vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Le président est politiquement irresponsable. Et donc, à travers cette lettre, visiblement, il y a ce que nous avons toujours dit au niveau de l'opposition, le fait que nous n'ayons pas atteint le point d'achèvement, le fait que la dépréciation monétaire depuis le mois de janvier jusqu'à ces jours a poursuivi son chemin en portant avec elle le pouvoir d'achat de nos populations, aujourd'hui, nous pouvons dire, et les chefs de l'État les confirment, c'est de la responsabilité du gouvernement. Donc, deux aspects dans cette affaire.
Et vous confirmez la thèse du désaveu.
Ah, bien sûr, ça c'est clair, mais le problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, le reproche que l'opposition a toujours fait au gouvernement par rapport à sa responsabilité sur la mauvaise gestion de finances, avec incidence sur les comportements du franc congolais et donc de la montée des prix, aujourd'hui, le président de la République indique très clairement dans sa lettre que c'est le gouvernement qui en est responsable, parce qu'il parle des dérapages substantiels des finances publiques. Mais d'autre part, agissant de cette manière, le président est passé à côté de la Constitution, de la loi financière et d'autres lois.
Merci, Jean-Lucien Boussa. Zeman Moukouakani, vous êtes député national et président du groupe parlementaire PALOU à l'Assemblée nationale. Le PALOU, c'est aussi le parti du Premier ministre Adolphe Mozito. Comment vous, au niveau du PALOU, vous avez accueilli cette lettre? Jean-Lucien Boussa parle d'un malaise profond entre le président de la République et le Premier ministre. Comment vous avez accueilli ça au niveau du PALOU?
Pour le PALOU, nous avons considéré cette lettre comme normal dans le cadre de la collaboration qui doit exister et qui existe entre le président de la République et le gouvernement.
Ce n'est nullement un désaveu.
Non, pas du tout. Où est-ce que vous voyez des désaveux? Le président, en tant que chef suprême, peut demander à son premier ministre, tout comme il peut demander au président de la République de l'Assemblée, allez orienter vos actions dans tel sens.
Mais Jean-Lucien Boussa dit que ce n'est pas constitutionnel.
Non, mais ce n'est pas la Constitution n'intervient pas. Le président collabore avec l'exécutif. Lui-même aussi est de l'exécutif. Donc il peut donner des instructions. Il peut se mettre d'accord, il peut donner le conseil. Dans ce sens-là qu'il a voulu faire. Moi, je ne vois pas un désaveu. Il n'y en a pas.
Donc vous considérez que c'est une lettre normale comme tout
normal dans le cadre de l'exercice de fonction du président et du Premier ministre, pour que le pays puisse aller de l'avant.
Mais Jean-Lucien Boussa encore venait de dire que cette lettre est révélatrice d'une certaine mégestion de la part du Premier ministre.
Cette mégestion, si mégestion il y a, ça, on doit éradiquer ça. Et comment? C'est le gouvernement. Je veux vous dire, dernièrement, il y a eu des rapages de la monnaie. Et ça continue d'ailleurs. Le gouvernement cherchait à savoir où ça n'allait pas. Alors, il est arrivé à la conclusion que, par exemple, à la banque, on a dû décaisser l'argent pour donner une banque privée. Alors, le gouvernement est qui? Parce que ça a été écrit même dans les journaux. A écrit au gouverneur? Bon. Vous voyez que ce n'est pas le gouvernement. Dans le cadre de la chaîne de la dépense, ça peut être la banque, ça peut être le ministre des Finances, ça peut être le ministre du Budget, tout ça peut être comme le directeur du Trésor.
Donc là,
pourquoi on a voulu mettre de l'ordre.
Vous voulez dire que ce n'est pas le Premier ministre qui est responsable, ce sont les autres. La Banque Centrale, le ministre des Finances.
Non, le Premier ministre coordonne tout ça. Dans ce sens-là, oui, mais les dérapages peuvent venir de la banque. Et c'était le cas pour le moment.
Donc vous attribuez la faute à la Banque Centrale
non,
ou non au Premier ministre?
Je vous dis, non, le Premier ministre n'est pas du tout en faute. Je vous dis que dernièrement, on a découvert, et la banque, alors que la banque demandait du crédit, demandait au Trésor le crédit pour éponger son déficit, mais on a constaté en même temps, la banque donnait l'argent à une banque privée. Vous voyez?
Donc la médiation dont on parle ici n'engage pas le Premier ministre pour vous ?
Pas du tout. Pas du tout.
Professeur Ambroise Kamukuni, vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit dans plusieurs universités de la RDC. Comment vous analysez cette lettre du Premier ministre, du président de la République au Premier ministre ?
Avant d'aller vers la lettre, monsieur le journaliste, il s'agit de constater deux aspects intéressants dans tous les débats ici. C'est-à-dire le premier aspect, c'est la vitalité. La vitalité, c'est-à-dire quand même notre démocratie naissante, il est déjà quand même révélateur d'une certaine existence de liberté que de voir nos députés et d'autres acteurs politiques réagir directement à ce qui se passe pour le gouvernement de la République. Ça, c'est un aspect constant. Le deuxième aspect qui nous inquiète, nous autres, c'est un peu la facilité avec laquelle on traite l'actualité. Le domaine du droit constitutionnel, c'est un domaine de l'actualité. C'est ainsi qu'on retrouve tous les termes qu'on peut utiliser, les principes de constitutionnalité de loi, le principe de séparation de pouvoirs, l'inconstitutionnalité des décisions qui sont prises.
Et qu'est-ce qui vous inquiète concrètement ? C'est quoi qui vous inquiète ?
Ça m'inquiète parce que ce genre de termes, on devrait réfléchir plusieurs fois avant de pouvoir les utiliser.
Quels termes, par exemple ?
Des termes d'inconstitutionnalité, par exemple. D'habitude, pour parler d'inconstitutionnalité, il faut se situer à deux niveaux. Soit le premier niveau, il faut avoir en tête un texte quelconque, une norme constitutionnelle qui aura été violée. En deuxième lieu, à défaut d'un texte précis, on peut néanmoins se référer à l'esprit de la Constitution qui n'aura pas rencontré les préoccupations constitutionnelles.
Et dans le cadre du débat de ce soir, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ?
Dans le cadre du débat de ce soir, je voudrais tout simplement revenir sur deux points. Le premier point, c'est le principe de séparation du pouvoir. Le principe de la séparation du pouvoir, tel que consacré par notre Constitution, concerne trois pouvoirs classiques de l'État. Il s'agit du pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ce qui signifie quoi ? Au niveau de ce qui se passe maintenant entre le chef de l'État et le gouvernement, à travers le Premier ministre, il s'agit d'un problème interne au pouvoir exécutif, qui a deux têtes ici. Le pouvoir exécutif a d'un côté le chef de l'État, de l'autre le Premier ministre. Et l'article 91, justement, tranche la question, parce que justement, cet article stipule simplement que le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Cela nous fait penser par quel régime juridique sommes-nous. Parce qu'au niveau de l'inconstitutionnalité, je ne pense pas qu'il y ait une disposition constitutionnelle précise qui ait été violée.
Mais quand même, l'article 91 à laquelle vous faites référence dit quand même si les domaines qui relèvent de la compétence du président de la République, notamment la défense, la sécurité, les affaires étrangères, mais pas les finances. Comment vous y répondez ?
De toute la façon, le gouvernement conduit la politique de la nation. Ça, c'est l'alinéa 2. La défense, la sécurité, les affaires étrangères sont des domaines de collaboration. Ça, c'est le prescrit de la Constitution. Mais il faut observer le fonctionnement de notre régime actuellement. C'est quoi juste ? Dans la détermination de la politique de la nation, le gouvernement a une politique qui lui appartient, mais cette politique découle du chef de l'État. Quand vous regardez le fonctionnement réel, quelle est la politique en réalité qui est mise en place, qui est déterminée et qui est justement conduite par le gouvernement ? Il me paraît qu'il s'agit de la politique présidentielle. Parce que nous tombons ici sur ce qu'on appelle 5 chantiers.
Donc vous voulez dire que la démarche du chef de l'État est constitutionnelle, contrairement à ce qu'a dit Jean-Lucien Poussin ?
Elle n'est pas inconstitutionnelle du tout. Parce que dans l'esprit que nous avons, nous sommes dans un système, dans un régime que tout le monde semble qualifier être un régime semi-présidentiel. Mais de quel type ? Ce régime ne se confond pas à n'importe quel régime. C'est un régime propre. Dans ce régime que nous avons au Congo, il me paraît que, indépendamment du texte constitutionnel, le gouvernement ne répond pas seulement de sa responsabilité
devant le Parlement. C'est ça qui apparaît dans les textes. Mais en réalité, le gouvernement répond d'une double responsabilité, y compris devant le chef de l'État.
Jean-Lucien Boussa a rapidement une réaction. La démarche est constitutionnelle.
Je crois que les dispositions de l'alinéa 2e de notre Constitution sont claires. Le constituant a été précis lorsqu'il a défini le domaine de collaboration. Parce que le constituant aurait dit ces termes aussi. Il a défini le domaine de collaboration et s'il avait envie de citer les finances publiques comme domaine de collaboration, le constituant aurait dû le dire de manière claire. À ce sujet, je voudrais rappeler qu'il y a une loi financière qui existe dans ce pays aussi, qui découle de la grande loi que nous appelons la mère des lois que nous appelons la Constitution. La loi financière a des dispositions claires, notamment en ce qui concerne l'autorité qui est considérée, qui est l'ordonnateur général des finances publiques. L'ordonnateur général des finances publiques, c'est le ministre des Finances. Ok ? Les différentes phases de l'exécution de la dépense publique sont coulées dans la loi financière. Il s'agit de l'engagement par les services ou les ministères bénéficiaires. La liquidation, c'est le ministre du Budget. L'ordonnancement, c'est le ministre des Finances. Les décaissements, c'est la Banque centrale du Congo. À partir du moment où le président de la République se donne le pouvoir de donner une autorisation préalable après ordonnancement et avant paiement, c'est une nouvelle phase qui n'existe ni dans la loi financière, ni dans aucune autre disposition légale. Donc, c'est ma réaction à ce niveau, en attendant de réagir sur la banque
d'annonce. Je crois qu'il y a juste un mot par rapport à ce que vient de dire Jean-Lucien Boussa.
Je voudrais d'abord éclaircir la situation. Il vient de citer le trois trios qui ordonnance où est le premier ministre là-dedans.
Lesquels, les trois trios, lesquels?
Ministre des Finances, Budget, Banque, et le premier ministre où? Pourquoi il accuse le premier ministre de la gestion? S'il avait fait ne fût-ce qu'une analyse sérieuse, il aurait trouvé où il y a mes gestions, si mes gestions il y a. Parmi les trois là.
Nous allons prendre la réaction du PPRD. Jean-Lucien Boussa demande la parole, vous allez la voir tout à l'heure. Le chef de l'État a le pouvoir constitutionnel d'intervenir lorsqu'il sent qu'il va y avoir un excès de pouvoir occasionné par une institution sur une autre ou d'autres institutions. Telle est l'analyse que le député PPRD maître Jean Bouyou fait de la lettre du bureau du chef de l'État à l'endroit du Premier ministre. Le député Jean Bouyou a été joint au téléphone par Guy Maté.
La lettre en tant que telle a un effet bénéfique sur la marche des institutions. Il y a lieu de l'examiner sous deux aspects. D'abord sous l'aspect constitutionnel, quels sont les pouvoirs du chef de l'État sur l'action du Premier ministre et quelles sont les interactions possibles entre le chef du gouvernement et le chef de l'État. Mais on pourrait l'examiner également sur la marche des institutions, c'est-à-dire qui a la responsabilité de la bonne marche des institutions et au regard de la Constitution, c'est bien la mission du président de la République. Vu sous cet angle, il est nécessaire que lorsque le chef de l'État constate qu'il y a des dérapages dans le fonctionnement des institutions, qu'il y a un danger sur le fait qu'une institution dans son fonctionnement puisse faire affaiblir les autres ou porter atteinte au fonctionnement des autres institutions, eh bien il est nécessaire à ce moment-là qu'il intervienne.
Jean-Lucien Boussa, pour Zanon Moukouakani, la gestion dont vous parlez est à chercher ailleurs, pas au niveau du Premier ministre. Et puis, votre démarche, n'est-ce pas une ingérence dans les affaires du gouvernement et de la présidence de la
République? Non, pas du tout. D'abord, c'est le président de la République qui dit qu'il y a eu des dérapages substantiels des finances publiques et de la monnaie. Et il s'adresse au Premier ministre. C'est le président de la République d'abord qui le cite. Mais ensuite, mon collègue a dit tout à l'heure que c'était le premier ministre était le coordonnateur de l'activité gouvernementale, même si, par ailleurs, le Premier ministre, et nous avons des lettres qui indiquent que le Premier ministre engage la dépense publique. Le Premier ministre sélectionne des fournisseurs qu'il faut payer à son niveau. C'est très grave là-dessus. Et donc, à la fois, le Premier ministre est dans le faux, parce qu'il se met dans une situation inconfortable, il se substitue au ministre des Finances, en même temps,
qu'il est aujourd'hui dénoncé par les chefs de l'État par rapport au dérapage des finances publiques. Mais à la fois, il est clair aujourd'hui que la responsabilité des dérapages des finances publiques revient au gouvernement. Qui est le chef du gouvernement? N'est-ce pas le Premier ministre? Lorsque mon collègue dit « c'est la Banque centrale », mais dites-moi, la Banque centrale n'est pas un îlot à part dans le maillot de la chaîne, n'est-ce pas, de la gestion des finances publiques de la République. Le Premier ministre devait être capable de pouvoir à la fois maîtriser l'ensemble des secteurs de la vie nationale, mais en même temps garantir une gestion saine des finances publiques qui réjaillit positivement sur la vie de la nation, sur la vie de la population. Donc je crois que de ce côté-là, mon collègue a bien des raisons de pouvoir plutôt poser la question au président de la République du jugement qu'il fait de son Premier ministre.
Président Moukouakani, cette lettre du président de la République est-elle vraiment innocente à votre avis?
Non, comment on peut dire qu'elle est innocente? Le président de la République, le constitutionnaliste l'a dit, c'est lui qui centralise toutes les activités. C'est lui le chef suprême. S'il trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ici, évidemment, il ne pouvait pas s'adresser au ministre des Finances, il ne pouvait pas s'adresser au ministre budgétaire, il ne pouvait pas s'adresser à la banque. Il s'adresse à celui qui coordonne. C'est tout à fait normal.
C'est dans le Premier ministre qui coordonne.
Oui, c'est dans l'exercice normal. Le Premier ministre, lui, dans la recherche des solutions, il dira qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis il prend des mesures avec le président de la République pour indiquer l'hémorragie. Là où il y a hémorragie.
Donc, à votre avis, cette lettre est simplement administrative. C'est quand même étonnant.
Bien, bien sûr, parce que franchement, on ne peut pas considérer cette lettre comme un aveu. Un aveu, il va désavouer le Premier ministre. Pourquoi? Les dérapages. Si le Premier ministre situe là où il y a dérapage, et que lui, le Premier ministre, prend des mesures, et que ces mesures ne portent pas encore même des résultats concrets, mais il est fautif en quoi?
Et mais cette lettre est aussi quand même très dure. Hein. Certains extraits qu'on a lus, par exemple, les instructions contenues dans cette lettre ne doivent souffrir d'aucune exception.
Non. Évidemment, bon, ça c'est le style un peu de la deuxième république qui revient, ben, ça n'a, parce que vous voyez...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, concrètement?
Je veux dire que la forme, bien que la forme ne soit pas celle qu'elle devait être, mais on a compris. Ça peut se faire au niveau de la rédaction. Les gens utilisent des mots qui ne sont pas à leur place. Hein.
Donc pour vous, le problème se situe au niveau de la forme, simplement.
Oui. Parce que non, je dis, pas seulement de la forme, les instructions qu'on a, que le président a données, sont exactes. Mais au point de vue forme, c'est une lettre qui énerve un peu, parce que ça énerve.
Mais le président de la République met le Premier ministre sous tutelle financière.
Ben, si vous appelez les contrôles, d'ailleurs c'est une mesure exceptionnelle, pour une situation bien précise, vous appelez ça sous contrôle, et exceptionnel, ça peut durer un mois, ça peut durer 2 mois, et puis ça serait des vrais. C'est pour un temps, parce qu'on voudrait absolument que les finances publiques soient saines. Mais il vaut mieux que les efforts soient conjugués entre le gouvernement et le président de la République.
Mais comment assainir les finances publiques quand le Premier ministre a un bureau, un cabinet de 400 membres?
Non, je ne sais pas ce que vous appelez. Les budgets que nous avons votés prévoient à la primature combien de personnes? 600. Moi, j'ai voté, mon collègue a voté.
600 personnes.
600. Et on a prévu le budget. Mais il n'est même pas à 500. Comment vous pouvez l'accuser? C'est budgétaire.
Professeur Ambroise Kamukuni, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau du débat? Je vois Zenon Moukouakani qui sourit. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau du débat?
Au niveau du débat tel que les honorables députés sont en train d'en faire, il y a lieu que je ne me retrouve pas. Comment là où je dois me retrouver, c'est tant à savoir, au fait, la décision présidentielle est-elle inconstitutionnelle ou illégal.
Parce que j'avais déjà dit qu'elle était inconstitutionnelle.
Non, mais j'ai cru entendre de l'autre côté l'honorable Moussa en train de dire que cette décision viole la loi financière.
Alors, si la décision viole la loi financière, elle n'a rien à voir avec la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité.
Deuxième alinéa de l'article 91.
Alors, en ce moment-là,
nous devons renvoyer au deuxième alinéa, de l'article
91 de la Constitution. C'est ça qu'il dit.
Oui. Ouais.
Oui. Mais c'est que l'honorable n'aperçoit peut-être pas. C'est que à travers cette constitution et à travers l'ordonnance qui fixe les attributions des ministères, cette ordonnance, elle vient de qui ? Elle vient du chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui attribue des ministères, qui attribue des compétences, qui confère des attributions au gouvernement. D'abord, ensemble, sur cette ordonnance, on note notamment que le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement pour la bonne gouvernance. Est-ce que cette ordonnance est également inconstitutionnelle? Au moment où les chefs de l'État constatent que, conformément à ce qui était entendu, les finances ne fonctionnent pas comme elles devaient fonctionner. Et d'ailleurs, je l'ai dit au départ, le chef de l'État congolais est certes politiquement irresponsable, mais il me paraît qu'il est actif. C'est-à-dire qu'il prend effectivement, il prend part au fonctionnement gouvernemental. Il suffit de regarder le programme du gouvernement. Je l'ai dit au départ. Le programme du gouvernement, est-ce que le programme du Premier ministre, qui est du Palou, était 5 chantiers de la République? C'est donc le programme du chef de l'État, à ce titre. Les chefs de l'État, il me paraît, et ce n'est pas inconstitutionnel, a un droit de regard sur le fonctionnement, justement, de cette politique. Et en plus, ça s'est prouvé par plusieurs aspects. Je le disais au départ, le gouvernement congolais, sur le plan du texte, répond seulement de sa responsabilité devant le Parlement. Mais dans le fait, dans le fonctionnement réel des institutions, il répond également de sa responsabilité devant le chef de l'État, qui est le propriétaire même du programme qui a été adopté par le gouvernement et qui doit s'exécuter conformément à ses désirs.
Jean-Lucien Boussach, si je comprends le prof Kamukuli, vous êtes pris dans le piège des lois que vous avez vous-même élaboré.
Non, pas du tout. Non, je crois que le deuxième alinéa de l'article 91 est clair. Si on avait besoin, et je l'ai dit, de citer tous les domaines de collaboration, le constituant aurait pu citer les finances publiques comme il a cité la sécurité et la défense nationale. C'est clair. Le prof a parlé de l'ordonnance portant attribution des membres du gouvernement. Mais c'est dit dans la Constitution. L'organisation du gouvernement, les attributions du ministre sont définies dans une ordonnance, par une ordonnance du président de la République. Mais ce n'est pas pour autant que le président prend l'ordonnance qui organise le gouvernement, qui définit les attributions du gouvernement, qui sort de la Constitution. Le président, en prenant cette ordonnance même, est resté dans les attributions constitutionnelles du gouvernement. Où le président dit, par exemple, s'agissant du ministre des Finances, qu'il est l'ordonnateur général des finances publiques. Et c'est ça qui est repris dans la loi financière, et partout ailleurs, même dans la loi d'exécution du budget de l'État. Le fait que le président et le prime soient tous membres de l'exécutif ne signifie pas que le président est responsable vis-à-vis du Parlement, de l'Assemblée nationale, voulais-je dire, le programme du gouvernement. Même si c'est les 5 chantiers du chef de l'État, etc., la personne qui en endosse la responsabilité, qui le présente à l'Assemblée nationale, le programme peut être rejeté ou pas, et en ce moment, le gouvernement n'est pas investi, c'est le Premier ministre, ce n'est pas le chef de l'État. La personne qui rend compte devant l'Assemblée nationale, c'est le Premier ministre et non le chef de l'État. Ceci doit être clairement dit. Même s'il est vrai que le président de la République a ses attributions définies dans la Constitution. Mais il faut pas faire de l'amalgame, je voudrais terminer, s'il vous plaît. Si les fonctions d'ordonnateur général relèvent du ministre des Finances, mais en vertu de quoi le président de la République peut-il suivre le plan d'engagement, peut-il suivre le plan de trésorerie, et maintenant, il donne une autorisation
préalable avant le paiement. Ça n'a rien à voir avec les activités de la République.
Pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, je vous rappelle que nous parlons de la motion d'information initiée jeudi dernier par le député national Jean-Lucien Boussa sur la gestion financière reprochée au Premier ministre Abbas Mozito dans une lettre de la présidence de la République. Quelle analyse faire de cette lettre et quelles peuvent être les conséquences de la démarche de la présidence à l'endroit du Premier ministre? Nous parlons de ce sujet dans cette émission avec Jean-Lucien Boussa, député national MLC, vice-président de la Commission économique financière de l'Assemblée nationale et initiateur de la motion d'information, Zemo Moukouakani, député national et président du groupe parlementaire PALU à l'Assemblée nationale, Ambroise Kamukuni, constitutionnaliste et professeur de droit public dans plusieurs universités de la RDC. Nous allons prendre la première vague des réactions des auditeurs. Jean-Claude de Rutshuru, au Nord Kivu, demande aux députés de cesser de nous distraire avec des motions sans issue. Pour lui, les motions sont synonymes d'argent. Il ajoute que là, nos députés cherchent encore des motifs de corruption. Joël Mbanda de Rutshuru, toujours, affirme que nous n'avons jamais entendu une motion parce que les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Pour lui, il faut initier une motion pour s'enrichir davantage. Rendez-vous 2011. Lumputu Kaliba, bienvenue de Kinshasa, pense qu'il n'y aura aucune conséquence dans cette démarche de la présidence à l'endroit de Mozito. Augustin Mwango de Kindu pense que l'opposition aura beau introduire les motions, mais celles-ci seront souvent rejetées car la majorité reste d'habitude solidaire pour ses intérêts au détriment de ceux du peuple congolais. Le Palou nous prouve qu'il a la tare de la mauvaise gestion. Comment Mozito peut-il avoir plus de 400 conseillers, même des coiffeurs payés par l'État? C'est Mike de Lubumbashi qui le dit. Zenon Moukouakani, rapidement, comment vous réagissez à cette réaction des auditeurs?
Non, mais écoutez, le dernier qui dit que le Palo nous donne une marque de mauvaise gestion, non. C'est qu'on a les conseillers ou les personnels de la primature, c'est marqué, c'est dans le budget que nous avons voté. Je voudrais, pour répondre aux autres là, même moi, je suis pour des motions qui nous permettent d'aller de l'avant.
C'est celle-ci vous retarde.
Non. J'aurais conseillé à mon collègue qui est un bilan.
Jean-Lucien Boussa.
Un bilan député, qu'il introduise une motion pour qu'on aille contrôler la banque. Ça serait une bonne chose. Il est économiste. Qu'on aille là-bas voir comment la banque. Parce qu'il y a longtemps que nous parlons de la mauvaise gestion de la banque. Mais nous avons des pouvoirs de contrôle. Pourquoi nous n'y allons pas? Et on veut cibler Mozito qui ne gère rien, qui est coordonnateur. Allons contrôler la Banque du Congo et contrôlons le ministre des Finances.
Et pourquoi vous-même, vous ne prenez pas cette initiative?
Non, mais c'est parce que ce sont très souvent j'introduis des motions. Hein, parce qu'ils veulent contrôler. Moi, je suis de la majorité. Ils veulent contrôler ce qu'on fait. C'est que la majorité fait.
Alors, vous faites sourire Jean-Lucien Boussa, réaction.
Non, d'abord, je remercie tous ceux qui nous ont posé des questions. Je considère que certains ne sont pas très bien informés. La motion a pour importance aussi de permettre à la population d'être au courant de ce qui se passe, mais de permettre aussi à ceux qui dirigent de pouvoir s'ajuster par rapport à la nécessité de bonne gouvernance. Deuxième élément, je considère aussi que c'est vrai, mon collègue pose le problème en termes des banques centrales, en termes du ministère des Finances, comme si le Premier ministre n'existait pas. Je voudrais qu'il rappelle au Premier ministre qu'il a des attributions constitutionnelles qui lui donnent le pouvoir, en tant que chef du gouvernement, de pouvoir avoir la maîtrise de l'ensemble des secteurs de la vie nationale. Et là, je suis très inquiet et je peux comprendre la lettre du chef de l'État dans son deuxième paragraphe. Et donc,
Qui dit quoi brièvement?
Ben, qui rappelle justement qu'il y a eu des dérapages substantiels des finances publiques et de la monnaie. Alors lorsqu'on me dit que c'est parce que la Banque centrale n'est pas contrôlée, ça me pose véritablement un problème. C'est vrai que la Banque centrale aussi, c'est dans un des maillots de la chaîne, mais un des maillots importants. Mais il appartient aussi à nos collègues de la majorité qui vient de se rendre compte que la Banque centrale pose problème, ainsi que le ministère des Finances, de ne pas se limiter à se plaindre eux qui ont le pouvoir, mais d'agir. Je pense que c'est ça aussi une attitude respectueuse de nos textes constitutionnels.
Même si nous n'avons personne de la Banque centrale pour répondre, professeur Ambroise Kamukuni, quelle est votre lecture par rapport aux réactions des auditeurs?
Par rapport aux auditeurs, je dois devoir soutenir l'honorable qui vient de parler.
Jean-Lucien Boussa.
L'objectif de motion, ce n'est pas nécessairement de faire tomber le gouvernement, parce que un ministre interpellé dans ce sens peut bien échapper à cela. Mais l'essentiel, effectivement, c'est l'éducation. Non seulement l'éducation de l'opinion publique, mais également le redressement des attitudes gouvernementales. Nous ne pouvons donc pas condamner ceux qui, de temps en temps, utilisent des mécanismes constitutionnels qui les sont reconnus pour pouvoir faire le contrôle nécessaire et par là même protéger l'intérêt public.
Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. D'abord, le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quelles peuvent être les conséquences de la démarche de la présidence à l'endroit du Premier ministre? C'est notre deuxième question, la question de notre deuxième partie de cette émission. Zeno Mukwakani, quelles peuvent être d'après vous les conséquences?
Les conséquences, c'est que le Premier ministre va être plus regardant maintenant. Et ensemble, avec le président de la République, ils vont contrôler tout ce maillon, les chaînes de dépenses.
Plus regardant, ils sommeillaient un peu.
C'est-à-dire que maintenant, ils vont faire beaucoup d'attention, parce que le président a sonné il y a une sonnette d'alarme, hein, et tout le monde va regarder là où ça ne marche pas. Tout le monde, et surtout le Premier ministre, il va maintenant... Vous savez, il y a une mafia qui tourne autour des finances. Hein. Alors, il faut que et le Premier ministre, et le Président de la République, et nous, l'Assemblée, parce que nous avons le pouvoir de contrôler...
Qu'est-ce que vous appelez mafia, concrètement?
Mafia, bon, c'est-à-dire que tous ceux qui trouvent leur compte dans les dépenses... honoreuse. Hein? C'est ça que j'appelle la mafia.
Jean-Lucien Boussa, quelles sont, d'après vous, les conséquences de cette lettre?
Mais je voudrais d'abord faire une petite parenthèse rapidement. Pour dire à mon collègue que jamais dans ce pays on a connu un premier ministre qui a nommé une personne d'appoint chez lui à la maison. Et jamais on a connu un premier ministre ni un chef de l'État qui avait un coiffeur nommé par décret. Ça, c'est quand même un problème. Cependant, conséquence de la lettre du président de la République adressée au premier ministre, j'ai craint là le risque d'une dérive. Une dérive où le président de la République, en tant qu'institution, se met dans la peau du ministre des Finances, du Budget et du Premier ministre. C'est une dérive dangereuse. Alors qu'en 2005, je vais dire, le référendum constitutionnel nous a permis d'aller vers de nouveaux choix constitutionnels. Ça veut dire vers de nouveaux choix en termes de gestion de la République. Ça, c'est un risque majeur. Deuxième élément, je pense aussi que il faut absolument, si on a le courage de dénoncer, il faut avoir aussi le courage de sanctionner. On ne doit pas se limiter à dire qu'il y a des dérapages substantiels sans indiquer les responsables de ces dérapages substantiels et les punir. Et je crois qu'on est tous dans on doit sortir du règne de l'impunité.
Vous souteniez tout à l'heure que le Premier ministre devrait démissionner, ça peut être une conséquence.
Ah oui, mais c'est une sanction politique. C'est une sanction politique. Et donc j'en viens, lorsqu'on considère que le Premier ministre de la République est responsable des dérapages, mais je pense que sa place ne se trouve plus à la tête du gouvernement. Sa place se trouve devant les cours et tribunaux, n'est-ce pas? Je voudrais terminer en disant que le président de la République doit avoir le courage de son opinion, le courage de son diagnostic pour aller jusqu'au bout.
Zeno Mukwakani, le Premier ministre devrait démissionner.
Pourquoi? Aucun problème.
Comme conséquence politique.
Non. Le Premier ministre... Et le problème, il faut savoir que le Premier ministre est issu de la majorité. Et le président est là-dedans. On lui a fait confiance, il conduit l'action, le programme du gouvernement, et il le conduit. Si en cours de route, il y a quelque chose qui ne marche pas, et que le président lui fait remarquer ça, est-ce que ça, c'est une rupture de confiance?
D'après certaines sources, il y aurait déjà des discussions hein, dans ce sens pour remplacer Adolf Mozito avec le Patriarche Lissouli. Vous confirmez?
Non, il y a trop de spéculations. Vous savez, au Congo, hein, nous avons des habitudes que nous avions pendant la Deuxième République. pendant la deuxième république, tous les 6 mois, on voulait changer le gouvernement. Les gens voulaient entrer au gouvernement. Les autres voulaient sortir. Donc, vous voyez, ce sont des habitudes qu'on a prises et qui restent. Et il n'y a pas question à ce que Adolphe Mouzou de démission dit il est en bonne intelligence avec le président de la République. Il travaille dans la collaboration.
Professeur Ambroise Kamoukouni, le Premier ministre suggère au président la signature d'un décret mettant en place le cadre de travail devant arrêter les modalités pratiques des institutions relatives au nouveau dispositif d'ordonnancement des dépenses publiques. Certains observateurs y voient un piège.
Ok, avant de parler de piège, je crois que nous devons savoir ce que nous recherchons. D'un côté, nous admirons l'action du chef de l'État d'avoir fait remarquer ce qui se passe également dans les finances. Et de l'autre, nous disons que le chef de l'État peut attribuer, peut donner des attributions au ministère et rentrer dormir pour ne pas devoir surveiller pour savoir les attributions qu'il avait confiées à des ministères fonctionnent comment. Ça, il fallait bien que je le dise. C'est dans ce cadre, justement, que l'avenir démontre clairement que le chef de l'État joue un rôle fondamental dans le fonctionnement des institutions. Cela doit être ainsi. Mais la réaction du Premier ministre démontre, justement, que le chef de l'État n'a pas eu tort. Il n'a pas eu tort parce que lorsque de l'autre côté on réagit, on prend ça à mal. Le Premier ministre le plante bien plus tôt.
Et quelles doivent être les conséquences concrètement d'après vous?
Les conséquences, c'est ce que je disais, ça nous amène à repréciser la nature de notre régime politique. Je disais tout à l'heure, le chef de l'État, contrairement à ce que d'aucuns pensent, n'est pas seulement irresponsable politiquement, mais il est actif. Il n'est pas inactif. Donc, contrairement à ce que révèle cet article 91, la collaboration dont il est question ici, comment ça se fait? Cela ne signifie pas que le chef de l'État ne s'occupe que de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères. Et quand il y a des dérapages dans d'autres domaines,
donc pour vous, il y a un problème au niveau des lois.
Non, il n'y a aucun problème. Ça le précise. Les lois sont faites pour quoi? Les lois sont faites pour être appliquées. Lorsque nous voyons une constitution, il ne faut pas que nous puissions nous baser uniquement sur les dispositions faites, mais nous devons voir le fonctionnement réel des institutions afin de définir le régime politique que nous avons.
Merci. Nous allons prendre la deuxième et dernière vague des réactions des auditeurs. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Ferdinand Dissiro en province orientale pense que le départ de Mozito doit donner une solution de l'économie congolaise car l'économie fait le développement du pays. Odon de Kananga estime que le Premier ministre Mozito doit résister à cette violation de la Constitution. Papi Kalima du Maniema affirme que ce n'est pas logique d'obliger le Premier ministre à démissionner. Justin Kabuya de Kananga affirme qu'Adolphe Mozito a été finalement poussé à démissionner suite à l'impunité qui bat record au Congo. Kamango Kungubili de Beni estime que pour ne plus se rejeter des discrédits, l'actuel Premier ministre devrait suivre l'exemple de son prédécesseur Antoine Gizenga vu que tous ses verrous ont complètement sauté. Zenon Mukwakani, en 30 secondes, votre réaction rapidement.
Mais suivre l'exemple d'Antoine Gizenga. Gizenga est parti, il a démissionné parce qu'il a donné des raisons. Hein? Il a dit, le corps était fatigué, il ne pouvait plus continuer. Et Mobutu Mozito n'est pas fatigué. C'est un jeune, il doit continuer l'action du gouvernement. Et il le fait bien.
Jean-Lucien Boussa, en 30 secondes aussi.
Ben, mon collègue a dit tout à l'heure que le Premier ministre n'avait pas la maîtrise de la Banque centrale et des finances publiques. Je me rends compte qu'il est fatigué. Et donc, il est fatigué pas par rapport à l'âge, il est fatigué par rapport à la capacité de pouvoir mener la direction du gouvernement. C'est un problème sérieux. Mais le débat aujourd'hui est celui de l'orthodoxie des finances publiques. Est-ce que le Premier ministre a su maintenir l'orthodoxie des finances publiques? Que non! Et aujourd'hui, il est un fait qu'on ne doit pas, lorsqu'on évoque l'arrêté, un décret qui doit être signé à la réponse du Premier ministre. Mais le décret vient résoudre quel problème? Parce que il y a la loi financière, il y a l'ordonnance pour sa attribution des membres du gouvernement prévue dans la Constitution. Le décret ne doit pas venir consacrer la violation de la loi financière et des autres textes légaux.
Merci, professeur Ambroise Kamoukouni. Votre conclusion?
La conclusion, c'est simplement que je n'ai pas à juger l'action du Premier ministre parce que je n'en ai pas compétence. Mais néanmoins, il s'agit des relations qui se passent entre les institutions d'un même pouvoir. Ils finiront par trouver un modus vivendi afin de gérer l'État.
Et qu'il ne devrait pas démissionner.
Ah, ça, il ne participe pas à demander au premier ministre de démissionner ou de ne pas démissionner. En ce moment, je serai partisan. Malheureusement pour moi.
Merci. C'est avec vous, professeur Ambroise Kamukuni, que nous terminons cette émission. Merci à Jean-Lucien Boussa, à Zeno Moukouakani. Merci à Jean-Claude Nsiala qui était à la mise en onde, Guy Mathieu, assisté de Kevin Couté, a coordonné cette émission, Samuel Kachak, coordination de Martin Sebou-Jangoué, devant ce micro, Alain Hirung. Je vous dis merci de nous avoir suivis.
Okati, okati.